Le règne animal, le nouveau film événement de Thomas Caillet.
C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe.
Un choc absolu pour le Parisien. Un coup d'éclat ahurissant pour Télérama. Absolument bluffant pour Première.
Il y a des survivants, j'en ai vu hier soir.
Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos. Le règne animal, actuellement au cinéma.
Le soldat doit être en état de se battre grâce à la formation reçue, à l'équipement mis à sa disposition. Mais il doit aussi avoir la volonté de se battre, qu'il soit fier de se battre pour son pays. Mais quand ces hommes et ces femmes se sentent abandonnés par leur propre pays, ils ne peuvent pas être de bons combattants.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. On a pu parler d'une révolution copernicienne. Le 27 février 2022, le chancelier Olaf Scholz vint proclamer à la tribune du Bundestag une redéfinition en profondeur de la politique de défense de l'Allemagne. Il parla d'un changement d'époque. Sous le choc de l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine, quelques jours plus tôt, il annonça une augmentation quasi stupéfiante du budget des armées. Il ébranlait ainsi un fondement essentiel de l'identité que son pays s'était forgée après la Seconde Guerre mondiale, celle d'une grande puissance économique et industrielle profondément pacifiste pour laquelle les questions de défense nationale demeuraient secondaires. Et voilà que basculaient dans le passé d'un seul coup les décennies où l'on pensait à Bonn puis à Berlin que la protection américaine assurerait à elle seule la sécurité du pays dans le cas d'une menace extérieure existentielle. Ainsi changeait d'un coup le regard du pays et de ses représentants sur les capacités militaires de la nation. L'ombre de la Wehrmacht, l'armée du nazisme, continuait d'obséder les mémoires et la Bundeswehr, celle de la démocratie, manquait grandement de prestige dans l'absence d'une adhésion populaire et d'un soutien diplomatique. Au moment où ce paradigme paraît en passe de changer en profondeur, l'envie vient de s'interroger dans la longue durée sur les relations chaotiques que l'Allemagne a entretenu avec son armée depuis le XIXe siècle, au fil des guerres et des régimes successifs. Hélène Miard-Delacroix, professeure à Sorbonne Université, historienne et germaniste du premier rang, va y pourvoir pour nous ce matin. Le vieil adage romain dit que les armes doivent toujours céder à la toge, entendez, au pouvoir civil. Ce principe, quels que soient les traumatiques événements actuels, continue bien sûr de prévaloir absolument outre-Rhin, mais il y fut souvent piétiné. Et pour commencer, un reportage en date du 3 janvier 2019 sur RFI.
Je suis jetzt ein bisschen mehr als 12,5 Stunden unterwegs.
Musique rythmée et montage calibré pour les jeunes, c'est la bande-annonce d'une web-série produite par la Bundeswehr appelée Les Recrues. Lors d'épisodes de 5 à 10 minutes, les internautes peuvent y suivre le parcours de 12 soldats engagés, une communication très critiquée qui rappellerait plus l'univers des jeux vidéo que celui de la réalité des combats, et qui ne répond pas au réel problème de la Bundeswehr, le manque de reconnaissance au sein de la société. Comme le souligne Bernard Drescher, 34 ans sous les drapeaux, avec notamment des missions en Macédoine et au Kosovo à la fin des années 90, il est aujourd'hui le président de la Fédération des Vétérans.
Ja, du hast selbst schuld. Du hättest ja auch einen anderen Beruf machen können. Das kam sehr oft.
Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu aurais pu choisir un autre métier comme ingénieur. C'est ce que j'entends encore aujourd'hui et ce qu'entendent tous les soldats qui rentrent. Non seulement la société ne s'intéresse pas à nos souffrances, mais nous devons aussi sans cesse nous justifier. La défiance envers l'armée est toujours très grande et les questions de défense n'intéressent pas les Allemands.
Sous-financement, équipement dépassé, les mots de la Bundeswehr sont connus et nombreux. À cela s'ajoute donc cette image négative de l'armée dans une société très pacifiste, toujours marquée par le nazisme et la Seconde Guerre mondiale. Selon Hans-Peter Bartels, commissaire parlementaire aux armées, pour recruter, il faut communiquer.
L'armée s'éloigne de plus en plus de la société car la Bundeswehr n'est plus autant présente au sein de celle-ci. Ce qui n'était pas le cas lorsqu'il y avait encore le service militaire obligatoire. L'armée était un sujet au cœur de la société, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avions autrefois 250 000 jeunes qui entraient chaque année dans la Bundeswehr. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 25 000.
Ce manque de reconnaissance serait donc au centre des problèmes de la Bundeswehr, souvent moquée pour son incapacité à mener à bien les missions qui lui sont confiées, au contraire d'autres pays.
Quand j'étais en France, il y a une anecdote qui m'a particulièrement marqué. Je faisais la queue à la caisse d'un supermarché et je portais mon uniforme de soldat. Et là, une dame âgée m'a laissé passer devant elle après avoir dit que je devais sûrement avoir des choses plus importantes à faire que de faire la queue. Une scène inimaginable en Allemagne où on peut s'estimer heureux si on s'en sort sans se faire insulter.
C'était un reportage de Laurent Gesselin sur la Bundeswehr, diffusé dans Accent d'Europe sur Radio France Internationale le 3 janvier 2019. Hélène Miard de la Croix, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé un document qui me paraît pouvoir nous donner le sentiment de l'évolution, probablement depuis 4 ans, puisque nous sommes maintenant dans la suite des déclarations tonitruantes du chancelier Scholz.
Absolument, on voit le chemin parcouru en si peu de temps, et ce regret qu'avait cet officier sur le peu d'intérêt des Allemands pour les questions militaires. Le réveil a été brutal en 2022, avec l'attaque de l'Ukraine, et aujourd'hui on parle beaucoup de défense en Allemagne, hélas, toujours pour se plaindre du très très mauvais niveau d'équipement, d'un matériel dépassé et de difficultés, et surtout d'inquiétude, parce que jusqu'alors on a cru que les Américains s'occuperaient entièrement de la protection de l'Allemagne.
Ce porte-parole déplore la fin de la conscription qui remonte à 2011.
Voilà, c'est 2011. Les Allemands ont mis beaucoup plus de temps que les Français à se faire transformer leur armée en une armée de métier. Et en fait, en 2011, la conscription était suspendue. Suspendue en temps de paix, mais elle peut à tout moment être réactivée en cas de tension ou de situation de défense. Et ça a été très long en Allemagne d'accepter cette suspension, parce qu'en fait, c'était ébranler le fondement de ce qui avait permis de reconstruire une armée après la Seconde Guerre mondiale. C'était l'idée d'avoir une armée de citoyens en uniforme, parfaitement intégrés dans la vie civile et qui tournait complètement le dos à une histoire très très longue qu'il ne faut pas essentialiser, mais au contraire qu'il faut retracer et historiciser, que les Allemands avaient eu avec l'armée. Et puis surtout, un des autres problèmes, c'est que en même temps que la conscription a été développée très tôt en Allemagne, dès la création de la Bundeswehr en 1955, l'idée de la possibilité de l'objection de conscience, et donc de faire un service civil extrêmement utile, puisqu'il y a tous les ans à peu près 100 000 jeunes qui vont aider dans les hospices, dans les maisons pour les personnes handicapées, et voilà, c'était renoncer à cet apport important dans l'aide sociale. On a trouvé une solution, puisque ce service est toujours possible, et il est ouvert aux jeunes hommes et aux jeunes femmes afin de pouvoir s'occuper des personnes qui en ont besoin.
Certains ont parlé, après la guerre, d'une nation tout entière objecteur de conscience.
C'est tout à fait juste, c'est tout à fait juste. Je pense qu'on ne mesure pas ça suffisamment bien, le traumatisme collectif qu'a pu être cette expérience du nazisme pour l'Allemagne, et de la prise de conscience que, décidément, quand les Allemands s'engageaient dans des affaires militaires, dans leur histoire, ça n'avait jamais été pour le meilleur, et que la seule façon de sauver son âme, d'une certaine façon, c'était d'être résolument engagé pour la paix, ce qu'a voulu faire la RDA de son côté et ce qu'a voulu faire l'Allemagne fédérale jusqu'à l'Allemagne réunifiée aujourd'hui.
Nous allons voir comment on en est arrivé là, c'est-à-dire à cette déclaration stupéfiante pour beaucoup d'Allemands et d'étrangers à propos de ces 100 milliards d'euros qu'on dégageait, c'est-à-dire deux fois la somme consacrée à l'armée précédemment.
Oui, alors il faut dire qu'il y a beaucoup à rattraper puisque progressivement et surtout depuis les années 2000, le gouvernement fédéral, avec donc l'accord du Parlement, a vraiment négligé son armée. C'est-à-dire que ça a été l'addition d'un phénomène qui est donc nous sommes certains absolument d'être protégés sur le continent par l'OTAN. Nous n'avons pas tant besoin que cela de participer à des interventions collectives, même si l'Allemagne a été présente dans une cinquantaine d'interventions collectives, et surtout l'idée qu'il fallait faire des économies un peu partout, puisque pour que l'Allemagne ait réussi à avoir un équilibre budgétaire aussi admirable, il a bien fallu rogner quelque part, et on a énormément rogné depuis une vingtaine d'années sur le budget de la défense. Et on le paye aujourd'hui parce que c'est bien de sortir 100 milliards, mais il faut acheter les matériels, il faut former les soldats, et ça ne se fera pas du jour au lendemain.
Le problème est qu'il y a une sorte de rémanence de médiocrité dans le fonctionnement de cette armée. Et d'ailleurs, la présidente de la commission des armées du Bundestag s'en est inquiétée récemment. Les articles de Thomas Vider dans Le Monde rendent cela très bien compte.
Oui, jusqu'à encore cette semaine, où on a entendu que des livraisons de matériel ne peuvent pas être utilisées parce que y a une erreur, ça ne fonctionne pas. Et il y a généralement dans la population allemande du sarcasme sur sa propre armée qui définitivement ne fonctionne pas.
On ne va pas jusqu'à dire « Bismarck, réveille-toi ».
Non, mais c'est très loin de l'image que l'on a et de ces stéréotypes qu'on a en dehors de l'Allemagne sur les Allemands extrêmement organisés, extrêmement efficaces et pour qui la chose militaire n'a pas de secret. Ça appartient vraiment à l'histoire.
Alors, je parle de Bismarck. Revenons, Hélène Miard de la Croix, à la période de la victoire des Prussiens sur les Français en 1870-1871 pour s'interroger sur la place de ce qu'on commençait d'appeler à l'époque le militarisme. Dans le fonctionnement du régime impérial allemand.
Oui, c'est un point vraiment absolument fondamental et qui permet, surtout si l'on n'essentialise pas, mais si l'on voit des continuités, d'expliquer une forme de fonctionnement des militaires et de l'armée jusque dans la période du nazisme. C'est-à-dire qu'il y a en Allemagne, même à partir de la création de l'État national en 1871, qui est donc l'Empire allemand, le maintien de tradition de l'absolutisme prussien qui était fortement lié donc à la présence et à la grande admiration portée pour l'armée, et accordant, bien que l'on fût dans un empire, donc un État fédéral avec plusieurs États, accordant au roi de Prusse un rôle central, et dans cet empire, les soldats sont des soldats, des sujets du roi. Avant d'être des soldats qui seraient par ailleurs des citoyens. Si on compare avec la France, qui se trouve dans la Troisième République, le contraste est extrêmement fort.
Et c'est une armée plus royale que parlementaire, dit-on à l'époque.
Elle est absolument plus royale que parlementaire pour la bonne raison que la construction de la constitution de l'Empire fait que le commandement, les décisions sur le fonctionnement de l'armée, les nominations des officiers échappent complètement au contrôle du Parlement. En revanche, le budget doit passer par le Parlement, représente au début de l'Empire 90% du budget fédéral, il faut se représenter ce que c'est, et c'est le seul point sur lequel les députés peuvent avoir une quelconque prise. Et c'est d'ailleurs, si l'on se rappelle, par ce biais-là que Bismarck avait réussi à arriver au pouvoir et à se rendre inévitable, puisque déjà en 1862, il avait eu un conflit avec les parlementaires qui étaient des libéraux et qui voulaient décider aussi de l'usage de cet argent. Et il leur avait proposé de décider pour l'éternité, puis pour 7 ans, puis pour 5 ans. L'idée était que le pouvoir exécutif obtenait des parlementaires une somme et il se moquait absolument de l'avis des élus de la nation. Et ça, c'est absolument essentiel si l'on veut comprendre cette autonomisation du pouvoir militaire qui est directement à l'époque aux ordres du roi de Prusse et donc de l'empereur.
C'est cela qui est au cœur de ce qu'on appelait le militarisme. Militarisme naturellement politique, militaire, mais même social.
Alors, c'est là que les choses sont intéressantes parce que ce qu'on appelle le militarisme allemand, c'est pas seulement un mode de fonctionnement qui aussi, comme je disais, dans la constitution de l'Empire, accorde à l'empereur le seul droit de regard sur le cabinet de la guerre. C'est-à-dire que, si on fait un dessin, l'état-major et puis la direction, le ministère de la guerre est complètement relié à l'empereur et échappe complètement à l'ensemble des autres pouvoirs.
Donc la hiérarchie militaire a tendance à mépriser ce qu'on appelait les politiciens.
Oui.
Et affirmer très clairement son autonomie par rapport à eux, ce qui n'est pas conforme à ce que nous faisons comme image d'une démocratie équilibrée.
C'est tout à fait cela, et surtout avec cet héritage de la grandeur de la chose militaire prussienne, ce qu'on appelle le militarisme de la société impériale, c'est à la fois une position réelle dans une hiérarchie, je veux dire, c'est une place d'élite, elle est supérieure au-dessus de l'ordre social, mais c'est surtout qu'il y a un transfert des valeurs et de l'éthique militaire à l'espace civil. Et on pourrait dire que les citoyens auraient pu le refuser, sauf que, et c'est vraiment caractéristique du militarisme, c'est pas non seulement que les officiers estiment qu'ils ont une position privilégiée d'élite à l'intérieur de la société, mais que la société elle-même accepte ce modèle, accepte que ce soit un idéal enviable et qu'il se soumette absolument volontairement à cet ordre-là. Alors ça donne lieu dans l'Empire à des phénomènes qui ont pu être moqués, y compris par le frère de Thomas Mann qui s'appelait Heinrich Mann et qui a écrit un des très très célèbres romans qui s'appelle Der Untertan en allemand. C'est le sujet de l'empereur, je crois, dans sa traduction française, et qui se moque énormément de cette admiration sans fin et insensé qu'ont les petites gens pour l'empereur, prêts à se jeter dans la boue devant son cheval pour pouvoir être caressés par le regard de l'empereur.
Cela laisse ouvert la question de l'équilibre entre l'état-major, l'armée d'un côté, et le pouvoir impérial de l'autre. Tant que Bismarck a été aux affaires, le sentiment prévaut qu'il a su assez bien maintenir la priorité du pouvoir civil, c'est-à-dire impérial, et en particulier il a empêché Moltke d'aller jusqu'au bout de son désir de prendre beaucoup plus de territoire à la France et de poursuivre la guerre. Il a dit « ça suffit comme ça ».
En effet. Alors ça, c'est aussi le récit que l'on affirme toujours.
C'est pas vrai.
Alors si c'est vrai, c'est vrai que Bismarck a demandé au maréchal prussien Helmut von Moltke, donc Moltke l'ancien, après la défaite de la France en 1870 à Sedan et donc au moment de l'organisation du règlement de la paix avec la paix de Francfort en 1871, Bismarck a demandé à Moltke de se calmer dans ses exigences alors qu'il voulait anéantir la France. Bismarck a dit non, nous n'allons prendre que l'Alsace et la Lorraine. Donc de ce point de vue, on a l'impression qu'il a réussi à s'imposer et que c'est le pouvoir civil qui s'est imposé face aux militaires. Sauf que Bismarck est parfaitement du côté du pouvoir du roi de Prusse qui va devenir l'empereur et de cette vision traditionnelle aristocratique de l'armée qui est au-dessus de la nation. Et il ne faut pas oublier que Bismarck lui-même, dans l'intégralité de son système d'alliance que l'on a tellement vanté, avait pour objectif d'éviter qu'une alliance quelconque puisse se faire entre la France et soit la Grande-Bretagne, soit la Russie. Il fallait toujours isoler la France, l'ennemi était la France, et il fallait organiser la diplomatie pour éviter la guerre, mais parce que la guerre serait nécessaire vis-à-vis de la France. Donc il y a en effet ce caractère raisonnable et très pragmatique de Bismarck. Pour autant, dans l'esprit même, il est aussi représentatif de cette vision d'une armée qui est au-dessus de la nation.
Quand la guerre de 14 éclate, la grande guerre éclate, quelle est la situation? On sent les conséquences directes de cette répartition des pouvoirs et des prestiges que vous venez d'évoquer?
Oui, on le sent tout à fait parce que... alors d'abord, il y a... On a appris ça à l'école, le déclenchement de la Première Guerre mondiale, c'est l'application du plan Schlieffen. Schlieffen, donc un plan d'invasion de la France et de la Belgique qui avait été élaboré complètement séparément du ministère... De la guerre.
D'ailleurs, le fait qu'on décide d'aller en Belgique provoque l'entrée de l'Angleterre, ce qui a de grandes conséquences diplomatiques qui devraient surmonter, évidemment, les responsabilités militaires.
Tout à fait. Sauf que pourquoi est-on entré en guerre civile? C'est parce que les militaires, sans demander l'avis des civils, ont dit que c'était le moment et que si on attendait trop, ce serait trop tard. Simplement, comme ils le feront d'ailleurs à la fin du conflit, en 1918, ce sont les militaires qui enclenchent un processus et qui après, sans laver les mains et laisse les civils s'en préoccuper et surtout assumer les conséquences. Les décisions prises et notamment le constat qui est fait pendant l'été 1918 que l'armée allemande ne peut pas aller à la victoire contribue à ce que la décision soit prise uniquement par les militaires qui demandent que l'on signe l'armistice. tout en n'assumant pas cette responsabilité et en laissant les civils gérer ce coup du ciel qui tombe sur la tête des Allemands, qui avaient vu la paix de Brest-Litovsk, qui n'avaient pas vu de conflit, de combat sur leur propre terrain, qui étaient convaincus que leur armée était tout à fait efficace et qui d'un seul coup apprennent par les civils que finalement nous avons perdu et que nous devons nous accepter d'être les perdants. Donc c'est une suite de mauvais calculs que l'on trouve dans la direction des affaires militaires. Et lorsque on devra accepter que l'Allemagne a perdu la guerre en 1918, les militaires disent « la soupe va devoir être mangée par ceux qui nous l'ont cuisinée », c'est-à-dire les criminels de novembre. C'est-à-dire, c'est une façon de dire « nous disons que nous devons arrêter les combats puisque nous n'y arriverons jamais, simplement ce sont les libéraux de gauche, les sociodémocrates, les chrétiens démocrates, dont le chef du SPD, Philippe Scheidemann, qui proclame la République le 9 novembre 1918, eh bien c'est lui qui va être considéré comme responsable et même comme traître.
C'est un sujet d'intérêt de voir la manière dont le récit militaire sur cette défaite s'est imposé depuis la presse dans son ensemble jusqu'au manuel scolaire. Je vois cette déclaration d'un général qui écrit en 1920 dans un ouvrage collectif, ceci, qui est tout à fait significatif, « L'armée allemande ne s'est pas effondrée au combat. Elle a conservé sa cohésion jusqu'à l'armistice. L'effondrement n'est venu que du fait de la mutinerie des marins auxquels se sont ralliés les garnisons de l'intérieur, puis de la révolution. Ce sont le parjure et la trahison qui ont amené la ruine du fier édifice. »
Ça, c'est ce qu'on appelle la légende du coup de poignard dans le dos et qui fait partie des choses les plus méprisables que le haut commandement allemand ait pu faire vis-à-vis de la société qui allait devoir sortir de la guerre et vivre avec cette armistice et cette défaite et avec le traité de Versailles. C'est que, comme je l'ai dit, les militaires se sont défilés et ont laissé les civils, notamment les élus de gauche, assumer cet opprobre qui va être jeté sur eux parce qu'ils auraient trahi. On pourrait dire qu'on a affaire à une dissonance cognitive, si l'on veut. Les Allemands, et ça il faut bien le comprendre, les civils allemands ont souffert de la Première Guerre mondiale, notamment beaucoup de pénuries à cause du blocus, mais ils n'ont pas vu les combats. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, grand traumatisme, on leur explique, la guerre est finie, nous avons perdu, nous allons perdre une grande partie de notre territoire, nous allons devoir payer des réparations. C'est inacceptable, ce n'est pas audible, et là où les militaires sont méprisable sur ce point, c'est que non seulement ils ont, d'une certaine façon, donné la patate chaude aux civils, mais ils ont construit ce mythe. La marine aussi, un vécu sur les mers, ça a été un grand succès de librairie. Eberhard von Montail, qui a écrit un livre racontant les combats maritimes, et on a l'impression que c'est une autre réalité.
C'est en prévoyant cette absence de conscience dans le peuple allemand de ce qu'a pu être la réalité de la guerre que le maréchal Foch aurait voulu qu'on continuât les hostilités, précisément en territoire germanique, ce que Clémenceau a interdit, et ce qui d'ailleurs signifie que les relations entre la toge et les armes étaient différentes, évidemment, en France et en Allemagne.
Absolument. Après la Seconde Guerre mondiale, Clémenceau, de la même façon que Lloyd George, obtiennent de rétablir le pouvoir civil et que la grandeur soit partagée entre les militaires et les civils. Alors, c'est plus difficile de partager la grandeur lorsque l'on a perdu, sauf que avec cette construction que nous avons évoquée du coup de poignard dans le dos, la sortie de guerre, ce qu'on appelle la sortie de guerre, qui a été très bien étudiée par Bruno Cabanne, a été un processus psychologique extrêmement compliqué en Allemagne, puisque non seulement on a eu l'impression de ne pas avoir perdu la guerre, d'avoir été trahi, mais en plus les combats et les pertes des frères, des amis, des fils, n'avaient pas de sens. C'est-à-dire que ce que la France a réussi à faire, ce que la société française a réussi à faire après le premier conflit mondial, c'est de retrouver une vie civile où on intègre le souvenir du militaire militaire a été impossible en Allemagne, et cette sortie de guerre a contribué à laisser de manière souterraine, outre la présence d'armes qui circulaient beaucoup avec les corps francs, cette présence de l'idée de la guerre dans la société, avec une rancune qui se retournait d'autant plus contre les civils que l'on ne pouvait pas la retourner contre les ennemis d'hier.
Le fait qu'on ait réduit, que le traité ait réduit à 100 000 hommes la dimension de l'armée allemande a pu d'ailleurs avoir un effet négatif à cet égard, puisqu'elle a contribué à cristalliser quelque chose comme une armée de métier, celle que de Gaulle n'obtenait pas en France au même moment.
Oui, alors c'est une des la réduction de l'armée, donc qui s'appelait à ce moment-là la Reichswehr, à 100 000 hommes, est une décision qui a été prise par les Alliés. C'est une des clauses du traité de Versailles de 1919. Ça a été une mesure de sécurité, si l'on veut, vu des Alliés, des Occidentaux. Mais c'était pas judicieux. C'était vraiment pas judicieux parce qu'il y a eu des conséquences très importantes. D'abord, dans la continuité de ce que je viens de dire, c'est qu'on a eu une armée de 100 000 officiers et soldats qui étaient déprimés et qui étaient blessés dans leur honneur. Et puis parce que on n'a pas réussi à créer ce lien avec la société, même si la constitution de la République de Weimar voulait rompre avec les traditions de l'armée traditionnelle, s'est maintenu dans cette petite armée, cette Reichswehr, un esprit de corps en conservant les mêmes orientations qu'auparavant, que l'on peut parfaitement qualifier de nationaliste, puisque la plupart des officiers étaient ennemis de la nouvelle constitution parlementaire et démocratique.
Tel chef comme Fonseck dit « Je n'ai jamais en réalité accepté cette constitution, je ne me sens pas du tout impliqué par elle ». Cela peut conduire à comprendre ce qu'ont été les relations, c'est notre sujet ce matin, entre l'Allemagne et son armée au long de la République de Weimar jusqu'à l'arrivée d'Hitler. Un équilibre qui est très différent de celui qu'on connaît en France ou en Angleterre.
Tout à fait. Et puis, c'est développé dans cette armée donc de la République de Weimar, qui est pourtant la première République démocratique parlementaire d'Allemagne, est resté un État... Pas vraiment un État dans l'État, mais un ensemble agissant de manière clandestine. On s'est équipé malgré les interdictions du traité de Versailles, au nez et à la barbe des Alliés. Et puis on a acheté des canons en Suisse, par exemple. Le développement clandestin d'armement s'est fait tout au long des années 20 avec des noms très jolis, comme par exemple de la construction de tracteurs pour dire que l'on construisait des voitures blindées. Voyez, et avec là aussi une coopération avec l'armée rouge, qui était tout à fait intéressant. Donc, le traité de Versailles a conduit l'armée de la Première République allemande à se comporter un peu comme une armée noire qui agissait en douce, puisque on y avait beaucoup intégré l'idée que le traité de Versailles était un diktat, il était injuste. Et il y a d'ailleurs au musée d'histoire militaire de Dresde une très jolie petite statue de 1919 qui montre un soldat en albâtre qui est nu, mais qui est les mains liées, et il porte un casque d'acier, et là le casque est vraiment en métal, sur la tête, avec un poignard à terre jeté devant lui. Cette représentation que l'on pouvait en trouver dans plusieurs maisons montre bien cette idée que l'armée était victime, et que il n'est jamais bon qu'on se sente persécuté quand on a les armes.
Tout cela explique quel est l'état d'esprit de cette armée au moment où arrive Hitler et le nazisme. Tous les militaires, tous les officiers ne se rallient pas aisément au nazisme. Comme toujours, les choses sont compliquées.
Alors, ça passe d'abord par une étape qui est absolument importante, c'est 1925. En 1925, c'est l'élection du président de l'Empire, du président il s'appelle du Reich, hein, puisque la République de Weimar est toujours porte le nom d'Empire.
Or, c'est un militaire, ce qui est évidemment symboliquement essentiel.
C'est le maréchal von Hindenburg.
Pas n'importe quel militaire, un des deux grands chefs de 14-18.
Et c'est lui, Hindenburg, qui, avec Ludendorff, a propagé l'idée d'une armée invaincue sur le champ de bataille, trahie par ceux qui ont fondé la République.
C'est comme si, au moment de Gambetta, on avait réélu le maréchal de MacMahon en France.
Oui.
Grand vaincu de...
Oui, si l'on veut. Mais alors surtout, alors moi, j'ai quelquefois tendance à comparer le maréchal de Hindenburg aussi avec Pétain, d'une certaine façon. Parce que Hindenburg, c'est quand même un grand héros militaire, puisque c'est la bataille de Tannenberg contre les Russes. Donc, il a cette aura personnelle. Et donc, il était chef militaire suprême. Et simplement, en étant élu président de la République, pour faire simple, succédant à Friedrich Ebert, qui était un social-démocrate, qui était un vrai démocrate, Avec l'élection de Hindenburg, on a un militaire qui prend la position suprême civile en étant président de la République et qui fait entrer par la porte de derrière les vieilles traditions antidémocratiques. Il y a une petite anecdote qui est tout à fait caractéristique. Les couleurs du drapeau de la République de Weimar, c'est noir, rouge et or, qui sont les couleurs de l'Allemagne d'aujourd'hui, qui sont les couleurs de 1848. Ces couleurs de la liberté et de la démocratie. Et ces couleurs n'ont jamais été acceptées par les nationalistes, qui étaient notamment les tenants de les gens du coup de poignard dans le dos. Et dès que Hindenburg est élu président, il fait changer les couleurs du drapeau qui deviennent noir, blanc et rouge, qui étaient les anciennes couleurs de l'Empire et qui jusqu'alors avaient été tolérées comme pour les bateaux de commerce. Donc on a vraiment un changement d'accent mis sur le pouvoir militaire.
D'où la validité, me semble-t-il, Hélène Miard de la Croix, de votre comparaison avec Pétain. C'est avec 7 ans de distance, évidemment, que Hindenburg profite de la défaite, si je puis dire, pour accéder au pouvoir, mais ces similitudes sont tout à fait notables.
Absolument, et on a surtout, il emporte les civils avec eux.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Alors survient Hitler. Comment évolue l'armée telle que vous venez de la décrire, l'armée allemande, en face de cet événement bouleversant ?
L'armée allemande, où les militaires ont contribué à amener Hitler au pouvoir, ont sous-estimé la capacité de ce petit caporal à mettre le pays au pas et l'ont en partie aussi soutenu, puisque dans un premier temps, la Reichswehr, donc comme s'appelle l'armée sous Weimar, accepte de se soumettre à Hitler et à prêter serment à sa personne.
Tout en pensant peut-être que ce petit caporal, on arriverait à le tenir en main, peut-être à le manier. Ça évoque un peu Thiers et Napoléon III disant « c'est un crétin que l'on mènera ».
C'était exactement l'idée qu'avaient les deux derniers chanceliers de Weimar juste avant Hitler, avant le 30 janvier,
von
qui
Papen.
Étaient von Papen et Kurt von Schleicher, qui est un général, et qui ont dit on pourra choisir ce petit caporal et puis nous l'écraserons dans un coin jusqu'à ce qu'il en couine. Donc il y avait là aussi une erreur d'évaluation d'où étaient les forces.
Il n'a couiné que beaucoup plus tard.
Voilà. Et donc c'est comment dire, il faut bien comprendre que du point de vue d'Hitler, alors Hitler a d'abord un attachement à l'armée qui est absolument féroce et qui fait partie aussi de sa propre légende, puisque Hitler se présente non pas comme le petit caporal mais comme le soldat, le seul qui sache vraiment ressentir ce que tous les soldats allemands ont ressenti dans leur âme lorsqu'ils ont été trahis par ces civils, ces marxistes et ces juifs, et il joue sur cette expérience du front, alors que les historiens ont montré que finalement il n'a pas fait grand-chose pendant cette Première Guerre mondiale. Mais surtout, ce qu'Hitler savait, c'est que ceux qui pourraient le renverser, c'était les militaires. Et que la seule façon qu'il avait d'empêcher d'être renversé, c'était d'une certaine façon de les mettre au pas. Et il les a mis au pas, d'une part en les flattant, en leur promettant le réarmement, l'augmentation des dépenses militaires, etc., l'expansion, et aussi en les soumettant à son autorité, avec le fameux serment porté sur la personne d'Hitler.
Ce serment, je suis sûr que vous voulez l'entendre.
Volontiers.
Qu'est-ce qu'on a entendu, Hélène Miard de la Croix ?
Alors là, nous avons entendu une troupe de soldats qui répètent après leur officier les différentes phrases de ce serment que Hitler a demandé qu'on lui prêtât à partir de la mort du maréchal Hindenburg en août 34. Et ce serment dit « Devant Dieu, je jure solennellement d'obéir en toutes choses aux fureurs du Reich et du peuple allemand, Adolf Hitler, commandant suprême de la Wehrmacht. En soldat courageux, je serai prêt à tout moment à donner ma vie pour ce serment. Donc, être prêt à donner sa vie pour le serment, cette formulation avait été demandée par Hitler parce que il savait quelle était la valeur de l'honneur et du serment prêté par un militaire, que jusqu'à la mort, on préférerait. Donc, on préférerait mourir que d'être parjure.
Et en même temps, on rompt avec la tradition qui était de prêter serment à la Constitution.
Alors,
même si les militaires avaient été extraordinairement réticents à le faire dans les années 20.
Alors, c'était ça. Dans les années 20, sous Weimar, on devait prêter serment sur la Constitution. Le président Hindenburg avait modifié ce serment en prêter serment sur le peuple et la patrie. Le peuple et la patrie, Volk und Vaterland, c'est une tradition de l'Empire. On trouve ça sur tous les casques quand on visite les musées. Et puis, Hitler fait prêter serment sur sa personne. C'est-à-dire que tant qu'il serait vivant, tout militaire qui se respecte et qui respecte les traditions millénaires, j'allais dire, de cette vision de leur honneur, eh bien, ce serment les liait jusqu'à la mort. Et il y a eu d'ailleurs beaucoup de militaires qui ont dit « wenn das Schwein tot wäre », c'est-à-dire, excusez-moi du peu, si ce salopard était mort, alors on pourrait agir. Mais tant qu'il serait vivant, on ne pourrait pas agir. Et c'est en cela qu'Hitler a su mettre l'armée dans sa poche, c'est qu'il a contraint les militaires à le suivre jusqu'au bout.
Ce qu'il y avait de nouveau, en somme, c'était un civil, puisqu'il était un civil, il était chancelier au début, en réalité contraint l'armée à rompre avec la distance qui était la sienne. Et puis, il y a un autre cadeau qu'il leur fait, c'est de procéder à l'élimination radicale des SA de Röhm, qui avaient, eux, la prétention d'avoir un rôle militaire.
Alors ça, c'est le contexte immédiat, en effet, puisque donc c'est en août 34, à la mort du maréchal Hindenburg, que Hitler cumule la fonction de chancelier à celle de président et devient Führer. Hein. On a une espèce de fusion de ces éléments. Et il fait en effet disparaître, dans la fameuse nuit des longs couteaux, cette armée cette armée parallèle qui faisait le point dans les rues et qui était perçue par les militaires de la Reichswehr, avant qu'elle devint Wehrmacht, comme une concurrence mal tenue. Et là où on peut quand même parler d'une collaboration entre la Reichswehr et Hitler, et donc l'acceptation d'être transformée en Wehrmacht, c'est que dès 1934, les militaires acceptent cet ordre d'Hitler, alors qu'on vient d'assassiner de ses généraux, puisque en même temps que la nuit des longs couteaux et l'assassinat de Röhm et d'à peu près 200 personnes, ont quand même été éliminés le général Kurt von Schleicher, qui était le prédécesseur d'Hitler à la chancellerie, et puis le général von Bredow, qui était un des hauts gradés. Et donc on a ici, en même temps que le serment comme honneur militaire, une armée qui se renie, puisqu'elle a accepte que deux de ses chefs puissent être assassinés.
Et à cette armée, on dit qu'il n'y a plus cette fois de différence entre l'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur. C'est
oui.
Aussi une nouveauté essentielle devant laquelle un certain nombre de grands chefs vont regimber.
D'autant plus que, en effet, va se développer après la mainmise mise par Hitler sur la Wehrmacht cette armée particulière qui est la SS, qui a elle, à la différence d'une armée normale qui s'occupe de défendre le pays voire d'attaquer les voisins, est aussi là pour combattre l'ennemi intérieur pouvant être les marxistes, les juifs, bien évidemment. Tous ceux qui pourraient avoir intérêt à voir disparaître l'ordre tel qu'il est installé.
On peut même évoquer la jeunesse hitlérienne, qui au début a une situation qui apparaît civile, mais qui progressivement va être lancée dans la guerre.
Oui, alors la jeunesse hitlérienne est un des exemples même de la militarisation de la société. Parce que bon, la création de la SS, voire même de la Waffen-SS, hein, qui est la branche militaire de la Schutzstaffel, de la SS, ce sont des arrangements entre des gens qui portent des armes. Alors que les jeunesses hitlériennes, qui sont donc créées le 1er décembre 1936 par une loi, combinent l'éducation de la jeunesse à des valeurs viriles, un projet éducatif, mais aussi la mise en uniforme de la société et sa préparation à l'exercice des armes pour enfin être, comme le disait Hitler, un être, on connaît cette citation, à nos yeux, le jeune Allemand de demain doit être svelte et élancé, preste comme le lévrier, solide comme le cuir et dur comme l'acier Krupp, a-t-il dit en septembre 35.
Célérité, solidité, durabilité.
Voilà, donc le cuir et l'acier Krupp. Et c'est surtout, tant dans l'habitus, bien évidemment dans le fait de porter un uniforme, mais dans les valeurs transmises, vraiment une éducation à la préparation à la guerre. C'est-à-dire que progressivement, les exercices que l'on faisait dès l'âge d'une dizaine d'années dans la Hitlerjugend, ça avait l'air très sympathique, ça ressemblait un peu à des sorties dans la forêt, c'est devenu très clairement une préparation militaire en vue de la guerre. Et d'ailleurs,
à la fin, on les a largement sacrifiés.
On les a largement sacrifiés. Et il faut bien comprendre qu'en 1936, il y a plus de 5 millions de jeunes Allemands qui sont dans la Hitlerjugend, même s'ils ne voulaient pas, puisque toutes les autres organisations de jeunesse ont été dissoutes. Toutes les organisations sportives, récréatives ont été dissoutes et intégrées à la Hitlerjugend.
La force des serments, l'intégration que vous dites, n'empêche pas la somme de douleur que tout cela impliquait pour ces conscrits, pour ces soldats. Et je vous propose une pause. Nous en avons besoin, me semble-t-il, à ce point de notre conversation qui manie tant de violence. Je vous propose d'entendre Marlène Dietrich interpréter Lili Marlène. Ce sont des vers de Hans Leib qui remontent à 1915, mais l'immense succès de cette chanson date précisément de la Seconde Guerre mondiale. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, elle a été extrêmement propagée par la radio en 1939, au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale par l'attaque de la Pologne. Et cette chanson a connu un très très grand succès. Tous les soldats l'ont fredonnée. Elle était d'ailleurs assez peu appréciée par les officiers et par Hitler lui-même, parce qu'il trouvait que c'était un peu triste cette histoire et que ça allait déprimer ces soldats, qu'ils en perdraient, ils en deviendraient plus nostalgiques. Mais cette chanson a connu un très grand succès. Même au-delà de l'armée allemande, puisqu'elle était même connue par les Américains.
Marlène Dietrich chante Lili Marlène en 1951.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne. Wollen wir stehen wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei dir Laterne stehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene.
Dans l'évocation que nous faisons, Hélène Mière de la Croix, des relations entre l'Allemagne et son armée depuis un siècle et demi, il faut toujours prendre garde de ne pas trop simplifier les choses, et en particulier, nous ne devons pas omettre cette donnée majeure que beaucoup d'officiers allemands, de généraux allemands, se sont très vite inquiétés de l'hubris de Hitler et du risque que l'Allemagne, se lançant dans cette guerre européenne et peut-être mondiale, soit finalement défaite.
Tout à fait. D'abord, les militaires de la Wehrmacht ont bien compris en 1938 qu'Hitler avait pris l'ascendant et que c'était lui qui allait décider et qu'il aurait peu de prise sur ses décisions. Ils se sont beaucoup inquiétés de cette aventure de conquête de territoire et lorsqu'ils se sont opposés à Hitler, pour beaucoup, c'était aussi par ce qu'ils voulaient sauver l'Allemagne. Ça ne voulait pas dire qu'ils seraient devenus des grands démocrates.
Autant l'affaire de Munich les avait persuadés que peut-être Hitler pouvait gagner par rapport à la faiblesse démocratie occidentale, autant l'idée de se lancer vers l'Est, du côté de la Russie. Ils connaissaient l'expérience de Napoléon, les a profondément inquiétés.
Tout à fait, ils s'inquiétaient d'une défaite allemande. Alors il y a eu, et c'est ça qui est intéressant, plusieurs tentatives d'éliminer le Führer. Il y a eu en tout 8 tentatives d'attentats qui à chaque fois ont échoué pour des raisons diverses. Et puis un réseau s'est mis en place avec non seulement des militaires mais aussi en lien avec des civils conservateurs chrétiens et sociodémocrates.
43-44.
Voilà, et qui notamment dans le cercle de Kreisau ont essayé d'imaginer un après et ont décidé d'éliminer physiquement le Führer puisque seuls les militaires pouvaient le faire.
Et c'est le moment fondamental du 20 juillet 44. Si on aime l'Uchronie, on ne peut pas ne pas s'interroger sur ce qui se serait passé si le complot avait réussi et il a failli réussir.
Oui, il a failli réussir puisque le jeune Klaus von Stauffenberg, qui était un colonel, a réussi à poser une bombe sur la table à côté des pieds d'Hitler dans son quartier général de Rastenburg en Prusse orientale.
Mais quelqu'un a déplacé.
La serviette. La bombe a explosé, mais Hitler s'en est sorti. Alors que Stauffenberg, croyant que cela avait réussi, est vite rentré à Berlin et s'est mis en place le coup d'État qui avait été fomenté et qui s'appelait l'opération Valkyrie et qui devait vraiment réussir à rétablir le pouvoir entre les mains donc des opposants à Hitler. Hitler a réussi à parler à la radio, à faire entendre sa voix, à qualifier ces gens qu'il avait essayé de le renverser de clique d'officier d'une stupidité criminelle. Il a considéré qu'ils étaient non seulement des traîtres, mais aussi très peu nombreux. Et le fait qu'il puisse parler à la radio, ça on le mesure pas aujourd'hui, a fait la preuve de sa force surnaturelle et ça a permis de retourner l'armée. Et ce sont les conjurés qui ont été arrêtés et exécutés le jour même.
Du rôle de la radio dans la Seconde Guerre mondiale, c'est un sujet que l'on pourrait développer. Nous ne le développerons pas. Et je voudrais que pour clore notre conversation, nous en venions aux années de l'après-guerre, c'est-à-dire la manière dont l'Allemagne défaite a fini par accepter d'avoir une armée, mais quelle armée? Et les autres aussi l'ont accepté, ça a été long.
Alors, je dirais plutôt à l'envers, c'est-à-dire que les Alliés ont fini par accepter l'idée qu'il faudrait que cette Allemagne démilitarisée, dénazifiée et absolument où on avait voulu extirper le militarisme, que cette Allemagne devrait participer à l'effort de défense de l'Occident. Et la guerre de Corée de juin 1950 est absolument décisive pour relancer ce qu'on a appelé le réarmement allemand, ce qui a valu au chancelier Adenauer des efforts absolument monstrueux pour convaincre sa population qu'il allait falloir porter à nouveau des uniformes et marcher au pas, puisque cette démilitarisation de l'époque de Potsdam, des décisions de Potsdam, a été tellement efficace que les Allemands ne voulaient pas porter d'uniformes. Et jusqu'à aujourd'hui, cette forme de défiance vis-à-vis de la chose militaire prouve le grand succès de cette démilitarisation et cette dénazification de l'après-guerre. Et donc, il y a eu plusieurs phases. La tentative de créer une armée européenne avec la CED, qui a échoué parce que là, les Français ont finalement décidé de ne pas accepter de créer cette armée collective. Le résultat,
1954.
En octobre 1954, les accords de Paris ont décidé de trouver une solution de secours en créant une armée nationale, enfin fédérale, qu'on appelle la Bundeswehr, mais qui ne pourrait exister que si elle était intégrée à l'OTAN. Donc la Bundeswehr que nous avons aujourd'hui a été créée le 5 mai 1955, immédiatement, complètement intégrée à l'OTAN.
Sans état-major.
Sans état-major et avec un inspecteur général pour les différentes armes qui est parfaitement intégré à l'ordre de commandement de l'OTAN.
Eh bien, écoutez ce reportage qui, du point de vue de ce que vous dites, est tout à fait éclairant. C'est un reportage du 23 janvier 1956 dans Paris vous parle. Un reportage de Paul Mauguin à Andernach. Vous allez voir comment Adenauer salue l'armée. On a l'impression que tout est tout petit, tout petit, tout petit.
Ici Andernach, petite bourgade flanquée sur le Rhin à une quarantaine de kilomètres de Bonn. Dans la grisaille et le froid humide de cette matinée d'hiver rénant, au milieu de quelques baraquements, les premiers éléments de la nouvelle armée allemande s'installent en carré. Nouvelle armée qui va être intronisée par le chancelier Adenauer. En attendant, les bottes ont disparu. On marche à l'occidental. Le casque américain a remplacé celui que vous avez très bien connu. La clique salue l'arrivée du chancelier. Devant celui-ci, entouré de M. Blank, ministre de la Défense, et du général Heusinger, 1500 hommes au garde à vous. Les premiers et futurs cadres de l'armée de Bonn. Sur leur droite, leurs instructeurs, une quarantaine d'Américains. Devant eux, à titre symbolique, deux chars, deux canons de DCA, deux mortiers, deux fusils mitrailleurs. Le chancelier s'est fait présenter les chefs d'unité par le général Speidel. Il se dirige maintenant vers une estrade minuscule où M. Blank, qui n'a pas jugé utile d'inviter un seul représentant du Parlement, non plus que le professeur Heuss, président de la République, l'invite à s'adresser à ses premières troupes.
Soldaten der neuen Streitkräfte.
Monsieur Adenauer insiste sur le rôle exclusivement défensif des forces de la République fédérale, présentes ou à venir. L'intégration, dit-il, de ces forces dans la nation constituera un test pour notre démocratie. Puis il se dit assuré que la nouvelle armée saura lever l'hypothèque du passé et justifier la confiance du Parlement, du peuple et de ses alliés de l'Ouest.
La tonalité est claire, Hélène Mière de la Croix.
Oui, c'est une armée qui surtout ne veut pas se montrer.
Et excusez-moi d'être une armée.
C'est presque cela. Et puis bon, c'est aussi, on était content en Allemagne à ce moment-là, en Allemagne fédérale, du côté du gouvernement, d'avoir réussi à s'intégrer à cet ensemble occidental et à reconquérir d'une certaine façon une souveraineté et une reconnaissance des voisins. Ce qui est important, c'est que là, on a créé une armée qui est très très différente de celle de ses voisins, qui insiste de beaucoup sur le lien avec la société civile, où donc le soldat est un citoyen en uniforme, où s'est imposé avec le temps aussi l'idée de ce qu'on appelle la Innenführung, c'est-à-dire que le commandement vient de l'intérieur, c'est-à-dire que les soldats sont éduqués à avoir une éthique et une responsabilité vis-à-vis de la société qui les porte. Et puis surtout, l'idée aussi que les soldats sont actifs, c'est-à-dire qu'ils ont un représentant d'une certaine façon, un délégué au Parlement qui peut recevoir les doléances des soldats, 7000 à 8000 par an. Ce délégué devant le Parlement fait un rapport sur la situation, sur l'application des différents principes, c'est un peu un modèle suédois. Et puis ces soldats, ils sont syndiqués. Ils peuvent exercer aussi un métier civil ensuite. Enfin, nous avons vraiment un modèle qui s'est extrêmement détaché des traditions prussiennes, alors que en RDA, pendant les années d'existence de la RDA,
on marchait au pas de doigt.
Où on avait à la fois ce discours sur puissance très pacifique, nous avons assisté en RDA à une militarisation de la société et puis la reprise de traditions prussiennes, puisque l'armée que l'on voyait devant la garde à Berlin-Est marchait au pas de loi.
Deux points très importants, le citoyen-soldat, on rejoint là le rêve de Jean Jaurès en France avant 14 dans l'armée nouvelle, l'idée qu'il fallait sans cesse y avoir une interpénétration entre la société civile et la société militaire pour assurer les bases d'une vraie démocratie. Et puis la décision à partir du moment où très tardivement l'Allemagne consent à exporter ses armes en dehors, c'est l'occasion du Kosovo. On affirme très fort que c'est le Parlement qui doit en décider et que rien n'est possible sans son aval.
Absolument, mais ça c'est constitutionnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a créé la Bundeswehr et qu'on change la constitution, il est bien précisé que au départ, donc l'armée allemande ne pouvait pas participer à des opérations que si c'était pour venir en aide à un des alliés de l'OTAN. Et à partir du moment où on était en dehors de l'espace OTAN, ce qu'on a appelé out of area, il fallait le Parlement décide très exactement, autorise par un vote des opérations extérieures en précisant l'extension géographique de l'opération, la durée de l'intervention et les moyens mis en œuvre. Donc on voit très bien un contrôle parlementaire et démocratique extrêmement fort qui a pu conduire à un état d'esprit qu'on a pu avoir en Allemagne. Non seulement on est protégé par l'OTAN, mais en plus, laissons donc les autres, les voisins qui ont des traditions militaires beaucoup plus simples que nous, aller au combat et puis nous allons aider essentiellement pour former les civils dans les interventions en Afghanistan par exemple.
Cette prédominance du Parlement dans ces affaires a permis, tout récemment, une sorte d'union sacrée pour approuver les décisions, les propositions du chancelier Scholz et augmenter de façon considérable, nous le disions tout à l'heure, les crédits. Il reste évidemment à voir, vous le soulignez, vous le marquez aussi tout à l'heure, Hélène Mière de la Croix, si cet ensemble militaire est capable d'intégrer tout cet argent pour devenir vite efficace.
Oui, puisque maintenant, les Allemands ont compris qu'ils étaient eux-mêmes potentiellement menacés, alors que c'était impossible et impensable. Un peu à l'époque de la guerre froide, on pouvait imaginer que les Russes puissent attaquer, ce qui avait valu beaucoup d'opposition aussi entre les pouvoirs publics et puis une partie de la jeunesse qui était très très antimilitariste, qui refusait absolument toute intervention et tout armement. Aujourd'hui, il y a en Allemagne la conscience que même chez soi, on peut être menacé. Et qu'il ne s'agit plus seulement de participer à des opérations extérieures pour aider un peu la paix du monde, mais que la paix chez soi est même menacée.
Donc vous ratifieriez pour finir l'expression du chancelier Scholz qui parle de la Zeitenwende. J'ai montré que je pouvais dire un mot en allemand.
Bravo, c'est un changement d'époque, un changement d'air. Plus rien ne doit être comme avant, mais en espérant une solution pacifique au conflit qui est en Europe aujourd'hui.
Parmi vos nombreuses œuvres, Hélène Mière de la Croix, consacrée à l'Allemagne, aux relations entre la France et l'Allemagne, je signale notamment votre belle biographie de Willy Brandt chez Fayard en 2013. Quel a été son rôle dans cette histoire des relations entre l'armée et les civils?
Alors, Willy Brandt est parti, il s'est enfui en Norvège hein, en 1933, parce que lui, c'était un activiste d'extrême-gauche, il savait très bien qu'il allait se faire arrêter très vite, et il a combattu contre la Wehrmacht, ce qui lui a été fortement reproché lorsqu'il est revenu en Allemagne après 1945, puisque un certain nombre de conservateurs avaient dit « nous savons où nous étions pendant la guerre, vous, où étiez-vous donc ?»
Il a agréé la Bundeswehr, telle qu'elle était ?
Oui, bien sûr. Il a simplement jamais été ministre de la Défense, comme l'a été pourtant son successeur Helmut Schmidt.
Et comme l'a été Ursula von der Leyen.
Tout à fait. Et Ursula von der Leyen fait partie d'ailleurs de ces ministres qui ont, dans ces dernières années, avant qu'elle parte en Europe, contribué à réfléchir au fondement démocratique de la tradition en choisissant la façon dont on appelle, dont on baptise les casernes et dont on rappelle aux jeunes militaires qu'ils doivent être respectueux des bons éléments de la tradition allemande.
Non sans controverse d'ailleurs souvent sur... l'accent qu'elle mettait précisément sur cette mémoire positive et négative.
C'est cela, oui.
Nous vous devons aussi, en collaboration avec Andreas Wirsching, ennemi héréditaire, naturellement entre guillemets, enfin... Avec un point d'interrogation, un dialogue franco-allemand paru chez Fayard en 2020. Et puis, aux presses du Septentrion, c'est plus ancien, le défi européen de 1963 à nos jours... Une histoire croisée des rapports franco-allemands, des origines à nos jours, c'est le volume 11. Et puis on peut d'autre part avoir profit à consulter l'ouvrage collectif consacré précisément à notre sujet, Pouvoir civil, pouvoir militaire en Allemagne, aspects politiques, sociaux et culturels, qui est dû à Corinne de France, Françoise Knopper et Anne-Marie Saint-Gilles, aux presses du Septentrion. Vous pourrez naturellement trouver les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et puis écouter, réécouter, podcaster cette émission pour la confronter à l'avenir du pacifisme allemand. Fremder Bahnhof, fremde Stadt, unterwegs zu Vaterstadt, du musst zur Bundeswehr. Oh, oh, du musst zur Bundeswehr. Sagst, du fasst keine Waffe an, hast alles versucht, doch jetzt bist du dran, du musst zur Bundeswehr. Oh, oh, du musst zur Bundeswehr. Et pour finir, sur le fond d'une chanson un peu ironique des années 80, qu'aimaient bien les jeunes gens menacés par la conscription, tu dois aller à la Bundeswehr. Du musst zur Bundeswehr. Je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Michael Simon à la prise de son, Keating Wang à la discothèque et Véronique Jolivet pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.
France Culture présente Vers un pays lointain, dialogue sur l'Antiquité. Un voyage inspirant dans le passé pour découvrir les richesses du temps et mieux comprendre notre présent.